Les nuits de France Culture.
La rave. Voilà un mot qui nourrit bien des fantasmes, positifs comme négatifs. Pour certains, c'est un lieu de débauche dans lequel les jeunes, et parfois les moins jeunes, vont noyer leur malheur à grands coups de drogues synthétiques et de basses enivrantes, le tout dans l'illégalité la plus parfaite. La rave serait en somme un divertissement pascalien à ciel ouvert, où les esprits fusionnent avec les corps, mus d'une transe incontrôlable, soumis au règne incontestable du BPM. On lit souvent, notamment dans les années 90 et 2000, ces récits de riverains effrayés à l'idée de l'arrivée imminente d'une rave à côté de leur maison ou de leur ferme. Pourtant, pour celles et ceux qui y participent, la rave est avant tout un espace de liberté, qui a des codes bien différents que, par exemple, les boîtes de nuit. La rave, ce n'est pas du paraître. On n'est pas là pour draguer, pour être le plus beau ou la plus belle, mais bien pour écouter de la techno. Alors on s'habille confortablement, on prend la voiture et on s'enfonce pour quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres, pour les plus téméraires, dans la campagne ou dans les bois, avant de trouver un coin isolé de tout. D'imposantes enceintes s'installent, les DJ prennent leur marque et la rave est lancée. S'ouvre alors un espace de liberté absolue, où la danse prend le pas sur tout et se crée une véritable communauté humaine, l'espace d'une soirée ou de quelques jours. C'est ce que tente de montrer ce numéro des Nuits Magnétiques de Yann Parantoen et Bernard Treton, qui croise un reportage dans une rave aux environs de Rennes avec des entretiens avec les philosophes Pierre Lévy et Philippe Kéo, ainsi que les organisateurs de rave Kinou et Manu Casana. Une émission diffusée pour la première fois le 3 février 1993 sur France Culture.
Nuit magnétique, ce soir, le phénomène rêve ou la rencontre de l'esprit et du silicium. La rêve, du verbe anglais « to rave », veut dire « délirer, quitter son corps ». Les rêves, ce sont des soirées semi-clandestines où les jeunes rêveurs s'expriment dans un environnement où musique et images sont générées par ordinateur. La rencontre de l'esprit et du silicium, c'est un titre de Pierre Lévy, mais également la rencontre dans ce nouvel espace de signification d'adolescents de Pierre Lévy, philosophe, et de Philippe Kéo, chercheur à l'INA et responsable du programme Imagina, festival annuel des nouvelles technologies.
En effet, classiquement, quand je dis classiquement, c'est pour un philosophe comme Kant, l'espace est une condition a priori, c'est-à-dire que l'espace existe en tant que condition de l'expérience. Il est là a priori et rend possible l'expérience. Aujourd'hui, on peut dire que les espaces virtuels sont eux-mêmes des expériences. Ils sont eux-mêmes des images. Ils ne sont pas là comme des supports de l'expérience, ou des conditions de l'expérience. Ce sont des expériences en soi, ils peuvent être expérimentés et ils font partie de l'expérience. L'espace se modifie en fonction de l'expérience. En effet, il est imminemment interactif. Alors, c'est particulièrement vrai avec ces mondes virtuels où le fait de se déplacer dans l'espace virtuel modifie l'espace lui-même et l'adapte à notre propre vision. Donc, il y a une totale, je dirais, synergie ou hybridation entre ce qui est de l'ordre de la subjectivité, la volonté de l'expérimentateur, et ce qui aurait pu jusqu'à présent être de l'ordre de l'objectif et qui ne l'est plus, qui fait également partie de la réactivité sujet et espace de l'expérimentation du sujet.
Paris, 5h du matin, nous sommes dans le car qui part à Rennes. Devant nous, les maraîchers déchargent des kilos de pommes de terre. Ici, la techno et la radio est déjà branchée sur FG, la radio spécialisée dans la house, fréquence gay. Et départ pour Rennes, pour la rêve annoncée avec Diorb et tout un tas d'autres DJ, Pils, UR, le DJ d'Asie allemande, des DJ de toute l'Europe, des cars viennent de toute l'Europe, là c'est le départ de Paris.
Bonjour France Culture.
Hey Laurent. Hey Laurent.
Eh oui, alors c'est le départ, ça y est, ça les gars.
C'est écrit dessus, c'est France Culture. Bonjour France Culture.
Salut.
C'est en direct
live
des
cars.
Bonjour madame, c'est vous la responsable? Oh là là, on va l'engueuler.
La haine, hein?
On va l'engueuler.
Ouais, vous pouvez.
Non. Ah, vous fiquez à l'heure, hein, c'est le principal.
Ouais, tant mieux alors. Salut.
Par contre, demain matin à partir de 9h, vous avez besoin d'un bus. Ce sera le collègue qui sera là, parce que moi je vais
travailler 24
sur 24.
D'accord, et dans la nuit, vous partez à quelle heure?
Ah, moi je suis avec vous.
Toute la nuit?
Tout le temps.
Ah bon, bah c'est parfait alors. Donc le dernier concert c'est vers 7h du matin, donc on peut charger directement dans le car.
Hein. Ouais.
Ah bah c'est super.
Je vais vous tout le temps.
Ah non, c'est super.
Et toi tu es qui?
Moi je suis Kinou.
Kinou.
Je m'occupe de la promo chez Ravage Records et je travaille avec Manu Casana.
Et pourquoi tu vas à Rennes, à part pour la promo?
Je vais pour la promo du label, pour m'occuper de mon groupe Les Pills, que je manage, et puis pour veiller sur tous ces gens qui sont avec nous dans le car et les aider en quoi que ce soit.
Pills, ça s'appelle comment?
P-I-2-L-S, pour pilule. On est la génération des pilules. Un peu comme Juan Tri, Pills, les Lunatic Asylum aussi, qui tournent pas mal dans les raves, on va obtenir un style techno-français très 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 rapidement. Avant, si tu veux, tu prenais une guitare et puis tu chantais, tu faisais une balade ou un rock endiablé. Aujourd'hui, ils prennent un ordinateur, une souris et puis un clavier pour s'exprimer. Mais ils sont musiciens avant tout, je crois, ça c'est très très important.
Est-ce que ça suit au niveau français, au niveau de la jeunesse?
Je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent de la techno, qui vivent dans les rêves. Si tu vas dans les rêves, tu vois la moyenne d'âge maintenant c'est 15-17 ans. Et nous à côté, qui commençons à rentrer dans la trentaine, on passe presque pour des vieux cons, quoi. Mais bon. Et puis on a quand même toute une. Je crois que t'as les deux pôles, t'as 15-17 et puis t'as notre âge à nous, 28-30, anciens quepons, qui avons un peu délire et destroy. Je crois tu trouves beaucoup de gens comme ça aussi, tu vois, dans le mouvement. Il y a tous les jeunes qui arrivent un peu de la banlieue, bon, qui sont un peu désabusés, qui se reconnaissent pas vraiment dans les styles musicaux actuels. Parce que pour eux, le style français, il n'y en a pas, la variété française, alors ils détestent. La musique écoutée leurs parents, c'est carrément has-been, le rock'n'roll, ils connaissent pas. Eux, ils veulent ce genre de musique violente, puissante, mais qui peut t'emporter aussi sur des rythmes et des mélodies avec des voix totalement différentes, tu vois. Il y a beaucoup de constructions de morceaux techno où la rythmique, la base avec les basses est très très puissante et super groupée. Et puis par-dessus, tu as des nappes avec des chants, des voix hyper mélodiques.
Manu Casana, producteur du label indépendant Ravage.
Disons que ça commence bon, déjà avec des groupes comme Kraftwerk, l'industriel aussi, bon, qui est venu quand même un petit peu après, mais Kraftwerk ou DAF. La techno telle qu'on l'entend maintenant vient vraiment de Détroit. C'est-à-dire qu'il faut remettre cette musique dans le contexte de la ville de Détroit. C'est la ville où il y a le plus de chômage aux États-Unis. C'est une ville qui tombe en ruine. C'est l'ancienne capitale de l'automobile aux États-Unis. Et donc où il y a beaucoup une population, je dirais, noire, très, très radicale, du fait de la pauvreté qui est vraiment plus grande là-bas que partout ailleurs. Donc ce sont des gens, des noirs à la base, vraiment la naissance de la techno, ce sont des noirs, donc des DJ à la base, comme Juan Atkins, Derrick May, Kevin Sanderson, qui se sont mis à mélanger leur influence, je dirais, noire, donc groove, avec ces sons blancs. Eux-mêmes appellent ça les sons blancs, donc Kraftwerk, d'autres choses, Coil, enfin, des gens de cette époque-là, je dirais. Et donc la techno est vraiment née là-bas. Et après, bon, on s'est retrouvé un petit peu transporté partout. Et l'explosion, vraiment, je dirais, sur le continent européen et même en Angleterre, vient de la Belgique, quoi.
Yeah! 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 Yeah!
La techno, en fait, maintenant, c'est plus, je dirais, un nom pour un mouvement que pour un style de musique qui est forcément un style de musique bruyant et qui tape. Mmh. C'est pas vrai. La techno, ça englobe aussi la trance, l'ambient et plein de choses comme
la
ça.
La trance par des ordinateurs.
La trance par des ordinateurs, oui, bien sûr. La trance par le biais de cycles. De cycles et de fréquences très, je dirais, recherchées. Pas forcément ni dans les aigus, mais disons justement un mixage, un mélange de fréquences basses, infrabasses, et de fréquence médium, mais avec des sons quand même bien spécifiques. La techno, moi je le dis, a des messages, a une philosophie, elle a un but, elle vient de quelque part et elle va à quelque part aussi, quoi.
J'adore cette musique-là et j'adore les groupes comme ça. Ça super. Ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir la cassette vers moi, la main par une vers moi. C'est pas possible, ça.
Ah si, sûrement. Mais c'est une musique qui va bien avec le car, avec la route.
Ouais, tout. Ouais, moi j'adore. Et je vais vous laisser mes coordonnées, vous me renverrez la cassette. Je peux rester à pied, mais ça, vous me la laisserez. Vous penserez au chauffeur, Louis. De chez TAE. De Rennes. Pour celui qui ne connaît pas TAE, ça veut dire Transport Armor Express.
Okay. Et vos enfants, ils écoutent ce type de musique?
Oui, justement, j'ai ma fille qui a 18 ans qui va venir cet après-midi vous rejoindre au TNB, au Théâtre National de Bretagne, puisque en plus elle est adhérente au TNB. Et le TNB, c'était anciennement la Maison de la Culture.
C'est pas une musique un peu rébarbative, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de chanson?
Non, moi j'adore tout ce qui est musique jeune, tout ce qui est musique moderne. Moi je m'en lasse pas. La preuve, c'est la musique de l'avenir, la musique de l'an 2000. Quoi. C'est ça qu'il nous faut. C'est fini la musette maintenant. C'est terminé ça. C'est plus la mode. Ouais, c'est pour que je regarde la route quand même. Et je vais venir à la cassette. Ok. Je vais vous laisser mes coordonnées.
À l'époque, en 70, on avait quoi? On avait Deep Purple, les Néobab, Planant, Pink Floyd et tout à clic. Et puis il y avait des groupes de rock à côté, tu vois ce que je veux dire? C'est effectivement une ligne droite avec des cercles, un éternel recommencement, mais avec des moyens différents pour s'exprimer, mais toujours un but à atteindre, c'est-à-dire l'élévation de soi et puis faire participer le plus de gens dans ta musique et dans ton délire.
Est-ce que tu as l'impression que les nouvelles technologies, justement, permettent ça? Parce que ça se développe également dans un système d'images. Là, vous avez ramené des gens qui font quoi? De l'infographie, pas de la vidéo, je pense.
Bah là, on arrive à tout associer. On arrive à associer la musique avec l'image. Sur scène, ce soir, on verra donc des lasers, un super show laser, des animations laser, ou simplement du laser qui passe à travers de la fumée, tu vois, et des ronds concentriques ou des choses beaucoup plus fouillées. On amène aussi donc Hall et Squall qui ont préparé des visuels donc avec des images. Tout ça, c'est travaillé sur ordinateur. Et puis tous nos musiciens, ils travaillent tous sur ordinateur, effectivement. Mais je ne sais pas si la technique, c'est le but à atteindre. Je crois que c'est juste un moyen.
Non, mais moi, ma question, c'est est-ce que cette technique développe un champ libre d'action?
Ah oui, ça oui, tout à fait. Ah ouais.
Oh, ça sent bon.
Sent.
Ce qui est bien, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a dedans.
C'est la pyramide, hein. C'est donc un secret ce qu'il y a dedans.
C'est une petite pyramide en métal. Alors, dès qu'on l'agite un peu, ça sent très bon.
À l'intérieur, il y a une boule de terre parfumée à la cannelle, à l'ambre.
Mais ça fait partie de l'attirail du rêveur ou quoi?
Non, ça fait partie de quelqu'un qui aura envie de mettre un objet pour lui tenir compagnie un peu. Un objet sur lequel il puisse un peu méditer, c'est un grand mot, mais un support, ouais. Un objet simple, comme une espèce de morceau de quartz qui serait en métal et qui en plus aurait une odeur. Ouais, c'est pour rêveur en fait.
Roughly the same.
soirée à Silicon Valley basée sur le toucher et sur tous les sens. Le visuel, le toucher, autrement dit, il y avait des décors palpables, avec des décors, tu sais, bon, il paraît qu'il y avait un mur de slime, c'est-à-dire ce qui tournait. Tu sais ce que c'est le slime, tu sais, c'est cette pâte qui dégouline, on dirait de la morve et autres. Donc il paraît qu'il y avait un grand mur, ils avaient monté ça exprès de slime. Ils avaient des espèces de moquettes bizarres dans lesquelles on rentrait dedans, tu sais, où. Enfin, c'est une texture très spéciale, un peu comme de la mousse, mais dans laquelle tu peux la rentrer dedans et bon, qui se déforme. Et non, mais c'est vrai, ou dans laquelle tu te fais avaler, quoi, ni plus ni moins, et tu rentres dedans. Ils ont fait justement ce qu'on appelle vraiment la mousse, quoi, tu sais, mais une mousse sèche. Tu sais, quand tu prends, tu as juste un petit filet, une mousse non humide. Enfin, ils avaient plein de choses au niveau visuel. Bon, ils ont fait des trucs assez fous jusqu'à essayer de. Le pari était de justement d'essayer d'envoyer un laser jusqu'à un satellite qui devait le renvoyer. Bon, ça n'a pas marché, oui. On me l'a dit, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est assez fou, c'est bien que des gens aillent aussi loin. Des gens veulent faire découvrir ça.
En arrivant dans une rêve avec tous les dispositifs de lumière, les dispositifs de disons stroboscopiques, les fumées, les écrans en général, les vidéos et pourquoi pas des formes monumentales comme tu voulais m'en parler ou de l'eau, on est en quelque sorte projeté à l'avance, on est un peu les précurseurs de monde virtuel. On se retrouve dans un lieu qui n'existe pas et dans lequel on va communiquer.
Ah oui, donc ça préfigure sûrement quelque chose, mais ça, le problème, je dirais, c'est que les gens, le public en général, le grand public ne se rend pas compte de ça et ne voit dans la rêve que le côté plaisir.
C'est le message, il passe par le son.
Il passe par le son, il est reçu par le corps et il repart à l'esprit. C'est le principe de la transe.
Exactement. Exactement. C'est ce que j'allais dire en fait. Exactement, c'est la transe. D'ailleurs, la trace allemande en particulier.
T'as entendu le truc Age of Love? Ah là là.
Le dernier Arthouse.
Ah bon?
Ah là là. Au-dessus de tout, c'est le son trans allemand, des grandes nappes et un rythme très très speed derrière, mais pas forcément violent, mais assez rapide, quoi, 150 BPM.
Ça veut dire quoi?
BPM, battement par minute.
Donc ça donne des actions directes sur le corps?
Bien sûr, bien sûr. Bah, quand t'as une basse, quand t'as des infrabasses ou des sub-basses qui arrivent, là ce soir il y aura 80 kilos. Quand tu prends les infrabasses en pleine poitrine, forcément, je veux dire, ton cœur il bouge et il ressent les vibrations et les pulsations, ça te rentre dedans, quoi. Ça te rentre par les oreilles, dans le cerveau, et tes pieds ils font « ok, j'y vais », quoi.
Je connais même je connais un DJ qui en fonction de son mix, en fonction du battement du mix, a son cœur qui bat exactement à la même vitesse, quoi.
Ah, ça c'est fort, hein.
Et vraiment, quoi, et c'est ma main
sur le...
DJ
cybernétique.
Complètement, quoi.
Comment il fait ça?
Mais non, mais c'est-à-dire qu'en mixant, en fonction des disques qui passent, du rythme qui passe, son cœur varie de pulsation.
Il est fond dans sa musique, hein. T'imagines le délire, hein.
C'est une fille.
C'est une fille. Alors c'est encore mieux.
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were bright and clear, and there were lots of stars. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were.
J'ai l'impression que tous les gens qui font cette musique aussi, ils cherchent à s'élever un petit peu spirituellement, décoller aussi un petit peu de la base, hein, tu vois, pour atterrir dans des sphères un petit peu différentes. Bon là, je sais pas si on entend la musique de Basile en fond, hein, et je crois que c'est un artiste, il vit pas sur Terre, hein. Il vit sur Terre, si tu veux, parce qu'il est humain, mais dans sa tête, il a vécu des choses tellement fortes qu'il est transporté dans des autres sphères. Et quand tu parles de ligne droite en ascension et des cercles concentriques, tu passes des niveaux comme ça, et plus ta musique est folle, et plus les gens arrivent avec toi à monter. Hein.
Il y a beaucoup de références au corps et au rapport entre le corps et ces nouveaux espaces, qu'ils soient sonores, qu'ils soient tactiles, palpables, tangibles et autres. Il y a des références au toucher, des références à ces lieux qui n'existent pas mais qui servent à communiquer. Il faut aller vers les images, ça a été dit, ou alors au contraire, ces images sonores rentrent dedans, ça vous rentre dans la poitrine. Et donc, manifestement, toute une problématique de l'hybridation du corps et de l'espace représenté, de l'espace de représentation, de l'image, pour aller vite. Et effectivement, ça recouvre toute la problématique des lieux virtuels qui sont aujourd'hui possibles avec ces fameux mondes virtuels qu'on peut explorer, qu'on peut habiter, avec lesquels on peut interagir. Et c'est un nouveau statut d'espace qui est rendu possible.
Un peu nos racines, réapprendre justement à communier tous ensemble, à rester tous ensemble autour d'une musique, d'un mouvement, d'un pôle, d'une idéologie. On parlait des tribus, je veux dire les gens, simplement le fait de faire un feu ou de chanter ensemble, ou de se réunir tous ensemble pour véhiculer, même sans mots, tu vois, ne serait-ce que s'envoyer des vibrations et de communier, de partager tous ensemble des choses. Nous, je crois que c'est ce qu'on, vraiment avec Manu, c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire ce soir. T'auras des Français, des étrangers, des Allemands, des Américains, tu vois. Et ça serait génial, je veux dire, si tout le monde arrivait à vibrer, tu vois, à l'unisson sur les mêmes trucs, à retrouver les communications un peu ancestrales par le geste, par la danse, par le rituel.
Philippe Kéo, polytechnicien, chercheur à l'INA et responsable du programme d'Imagina.
Dans ces notions d'illusion collective, ça c'est pas franchement nouveau. Il y a eu depuis longtemps, si je puis dire, dans le passé de l'humanité, un goût pour aller vers ces formes de fusion collective dans une expérience dionysiaque, les bacchanales où... ont été dès l'origine des lieux de fusion où soudain toutes les barrières, toutes les notions, tous les mots disparaissaient sous les images des comportements. Ça, je trouve pas ça franchement nouveau. En revanche, je dirais que ce qui est nouveau, c'est que l'espace lui-même, l'espace de l'expérience de la fusion, est devenu quelque chose d'éminemment homogène à notre propre langage. Alors que jusqu'à présent, l'espace était un support du langage, désormais il devient langage lui-même. Et donc le langage s'immisce dans l'espace comme l'espace s'immisce dans le langage. Et je n'ai pas une métaphore, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que dans les mondes virtuels, on peut expérimenter l'espace comme on parle. Et quand on parle, on fabrique, on tisse de l'espace. On tisse de l'expérience. Donc c'est ce mariage intime entre l'ordre subjectif et l'ordre objectif, où justement il n'y a plus ces deux pôles, ces deux pôles classiques, ceux de la logique aristotélicienne, mais il y a une image généralisée, et on est soi-même une image.
Révolution qui vient de venir, elle pourra être transcrite sur un écran, on pourra y montrer le stimuli de neurones par exemple en face du divin ou en face du beau, en face de l'agression par exemple. Et ça me rappelle le film de Wenders jusqu'au bout du monde, où on voit d'un seul coup quelqu'un qui arrive à représenter les rêves, et où tout au moins on commençait à prendre un rôle délicat, quoi, encore une fois, d'apprenti sorcier, et encore c'était pas le mot qui convenait, mais plutôt de... les imitateurs de Dieu, quoi. On jouait les grands créateurs, et c'est vrai que c'est un côté un peu archieux comme ça, c'est un côté... Forcément, je crois que c'est la première fois que l'homme s'abroche d'un droit aussi important que celui-là, de pouvoir manipuler à ce point la conscience de la matière, quoi. Et d'aller au très fond de l'impulsion électronique pour... d'un seul coup, y retrouver le même beat que le cœur, quoi. C'est un peu cette idée-là.
Philippe Kéo.
C'est d'ailleurs intéressant dans ces différents extraits, on voit qu'il y a aussi cette tension vers le spirituel, vers le psychique, vers le divin. On a dit qu'il s'agit d'imiter Dieu. Moi, je pense que cela vient du statut de l'image. L'image a toujours été quelque chose de très important et qui avait partie liée au sacré. D'ailleurs, les images les plus anciennes sont d'ordre religieux, en fait, hein. Que ce soit le veau d'or ou les anges que Moïse avait voulu faire sculpter pour entourer l'Arche d'Alliance, ou même les anges dont Salomon a peuplé le Saint des Saints dans le premier temple à Jérusalem, le sacré a toujours eu besoin d'images. Et nous sommes nous-mêmes, comme je le disais, nous sommes nous-mêmes des images. Il y a donc un rapport profond entre le divin, le sacré, le spirituel et l'image. Et c'est seulement, d'ailleurs, dans le cadre... de la guerre, la querelle des images, la guerre des images qui a fait beaucoup de morts par ailleurs, après les deux conciles de Nicée et de Constantinople, que l'image a eu enfin son statut reconnu dans la religion chrétienne, alors qu'elle est toujours interdite, dit-on, chez les juifs et les musulmans. Je dis-on parce qu'en fait, comme je faisais allusion, le temple de Jérusalem possédait des anges dorés de 20 mètres de haut dans le Saint des Saints. Donc la notion d'image, encore une fois, est importante parce que elle nous place devant nous-mêmes. Elle nous interroge. Et il y a les deux mouvements. Nous avons tendance à nous assimiler aux images que nous voyons. C'est, je dirais, une sorte de descente vers le bas. Nous avons tendance à remonter les images vers nous. C'est au contraire, c'est le double échange entre nous-mêmes et les images que nous faisons ou que nous pourrions être. Et cet aller-retour entre nous-mêmes et les images que nous produisons me paraît être... une bonne analogie de notre propre rapport avec notre interrogation métaphysique, je dirais, puisque nous-mêmes sommes des images d'un modèle qui serait le modèle divin.
Manu Casana.
De plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a une philosophie, qu'il y a un message. Donc de plus en plus de gens... veulent autre chose que justement cet éclat énergique, unique. Ils veulent une forme de communication due aussi d'ailleurs aux drogues qui sont prises en genre de soirée et avec ce style de musique, qui pousse aussi vers ça, à une ouverture vers les autres, à un rassemblement, à un positivisme effréné, je dirais. Enfin, effréné, en tout cas voulu, quoi. On ressent d'autres émotions que uniquement des émotions de pulsations rythmiques ou mélodiques. On va, ça va ailleurs, ça ouvre justement à la pensée, quoi. Le message, il est là, c'est à vous le trouver, c'est à vous à l'inventer, ce message, à le sentir, parce qu'il est là. Il est là par le biais des gens qui t'entourent, il est là par le biais de la musique et des lumières, et de tout cet environnement qui est censé vraiment te faire penser, devrait être amené à penser, quoi.
En fin de compte, c'est une parole.
Ce sont des messages. Oui, c'est une parole. Peut-être pas une parole, non, j'aime pas le négatif « une ». C'est la parole.
En tout cas, c'est un médium qui propose une nouvelle communication.
Non, tout à fait. Ouais. C'est... comment appelle-t-on ça? Moi, j'ai encore un trou de mémoire, hélas. C'est de la... Pas de la transmission de pensée. Aide-moi.
La télépathie.
Une forme de télépathie. Ouais. Mais en fait, c'est une forme de télépathie, c'est une proposition, c'est une incitation à la réflexion. Ni plus ni moins. Une incitation à la réflexion et à l'émotion, au sentiment.
Ouais. Cette musique transmet une parole que l'on peut sentir. Donc ce n'est plus une parole classique, quelque part.
Oui, mais c'est sûr, elle transmet une parole, mais comme je disais tout à l'heure, la préparation de la personne qui va recevoir cette parole lui fera voir cette parole d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas encore, je dirais, une manière de communication exacte. Tout comme la parole telle qu'on l'a maintenant ou l'écriture n'est pas une manière de communication exacte, ce n'est pas encore une manière de communication à 100% fiable, je dirais. Donc, c'est un début, c'est sûr que c'est un début. Et justement, l'ordinateur peut, par son progrès, par les progressions qu'on pourrait adjoindre dans le futur, pourra peut-être créer ça, mais on n'y est pas encore. C'est un premier pas, c'est une ouverture.
Les mots classiques ne suffisent plus, de même que les images classiques ne suffisent plus non plus. En fait, c'est le classique qui ne suffit plus, c'est la vision classique qui ne suffit plus. Un bon exemple de cette insuffisance de la pensée classique, c'est que les images et les mots, sont de même nature. Alors que nous pensions jusqu'à présent que d'un côté il y avait l'ordre du langage, l'ordre du lisible, et de l'autre il y avait l'ordre du visible, et qu'on distinguait bien ce lisible et ce visible comme deux ordres. Il y avait la page écrite et puis il y avait la photographie, par exemple. Ça, c'est l'espace classique de la représentation. Mais aujourd'hui, toute cette nette répartition est abolie. En effet, on peut, et par ordinateur c'est facile, c'est un jeu d'enfant, faire des images avec des mots. En tapant quelques mots sur un clavier, on crée des univers entiers, des univers virtuels. Et donc, le mot n'est plus simplement commentaire ou légende de l'image, le mot devient le générateur de l'image. Et ça, c'est une révolution fondamentale qui n'a été possible que depuis la possibilité de générer des images par ordinateur, c'est-à-dire avec du langage. Le langage produit directement de l'image. Donc, je dis que c'est la vision classique qui ne suffit plus parce qu'il n'y a plus les images et le langage. Il y a image et langage comme représentation. Et maintenant, la coupure, elle n'est plus entre le langage et l'image, elle est plutôt entre la présence et la représentation. Je crois que ce qui pose question aujourd'hui, c'est comment, en tant qu'être présent au monde, comment, en tant qu'étant dans le monde, nous pouvons nous situer par rapport aux représentations que nous nous faisons de nous-mêmes ou du monde. Ça nous apprend d'une part à nous sortir de notre propre langage et à considérer notre langage comme une image et à nous situer dans l'image ou dans le langage comme on peut se situer dans le monde. Vous savez cette fameuse formule évangélique, il ne faut pas être du monde mais il faut être dans le monde. On pourrait tout à fait l'appliquer à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la sphère des images et du langage. Il faut à toute force exister, c'est-à-dire sortir du monde, sortir de ce qu'est le monde pour pouvoir entrer dans le monde, pour pouvoir de ce fait le juger, le jauger, l'évaluer. Donc il faut se tenir à distance de l'image et s'efforcer de ce fait de se tenir à distance du langage. Alors que nous nous pensions jusqu'à présent comme émetteurs de langage, désormais il faut considérer le langage lui-même comme une image et comme les images, il faut s'en détacher. Il faut non plus rester, si je puis dire, agglutiné ou collé aux images, mais il faut s'en écarter, les tenir à distance. C'est la seule façon de garder le contrôle de notre propre raison, de notre propre rêve d'ailleurs. Sinon, on se laisse emporter par les images, on se laisse engluer dans les images. Et effectivement, là, on est condamné inévitablement à devenir les objets de la machine. En fait, on ne peut pas souhaiter être rendu esclave de quelque représentation que ce soit. Et la seule façon de ne pas être esclave d'une représentation, c'est de garder le sens de la présence. Et garder le sens de la présence, c'est s'habiter soi-même suffisamment et ne plus habiter les images.
Pascal Onofri, électroacousticien, et adepte de la pensée zen.
Ce que je recherche en fin de compte, c'est... C'est même pas la tranquillité. C'est... c'est le plat. Alors que maintenant, bon, c'est vrai qu'on rentre dans qu'on est depuis quelque temps dans le domaine de l'image, de la trois dimensions. Moi, je cherche même pas le plat, c'est trop. Il y a une dimension de trop, c'est le point. Le point, un seul point, un petit point comme ça. C'est même pas ma représentation de moi dans l'univers, c'est un point. Comment j'en suis arrivé là ? Eh ben, j'ai fréquenté quelques personnes qui utilisaient des machines. J'ai fréquenté une machine aussi, parce que ça se fréquente une machine. Ça se vit une machine. Ça se crée. C'est quand vous créez une machine, quand vous décidez une machine, vous avez l'impression d'être. Pour cette machine, vous êtes presque un. Vous êtes le créateur, quoi. Vous êtes Dieu, en fin de compte. Il faut voir un peu plus loin que le bout du nez d'une machine, quoi, parce que à l'époque où le savoir était véhiculé par l'être humain, simplement, l'analyse était lente et l'analyse était possible. L'analyse était, je dirais, analytique, sans faire de la palissade. La technologie va peut-être beaucoup plus vite que l'analyse, et donc, est-ce qu'il va falloir une machine pour analyser les effets de la machine ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on tourne toujours en rond. Avant, j'ai l'impression de griller les étapes en touchant des machines. Tiens, j'ai ce bouton-là, ça fait une petite musique. Comme disait un groupe que j'aimais bien, qui s'appelait Kraftwerk, qui utilisait que des machines, que je vous recommande d'ailleurs. Je voudrais savoir comment marche mon doigt avant de savoir comment marche le bouton. Dans les années 70, lorsque les babas ont pris des chemins différents et beaucoup de chemins de perdition, et entre autres les drogues, pensaient s'élever. Certains, je pense, ont arrivé à s'élever un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu. Et lorsqu'ils sont allés voir certains bouddhistes, notamment les tibétains, ils ont été confrontés à ces sages ou à ces penseurs. Et ils ont expliqué qu'eux prenaient tel produit et se sentaient... dans une espèce de au-delà qui était un peu supérieur au quotidien. Les mystiques, ces tibétains ont dit c'est très bien, mais pour aller en haut de la montagne, tu as le chemin direct, c'est-à-dire tu prends une drogue, ou tu prends un hélicoptère, ou un ULM, ou je ne sais rien, ou une machine, n'importe laquelle, une reproduction par. Mais ils disent nous, on préfère y aller lentement par les petits chemins qui fait des lacets, et on n'y va plus assurément, on y va quand on veut, on descend quand on veut, et on y est à coup sûr, et à chaque fois, on épouse la nature, on est dans la nature, alors qu'avec un support, c'est même pas un apport, c'est un support extérieur, tel qu'une machine ou une drogue, tu y es uniquement quand tu as cette drogue ou cette machine, mais tu n'y es pas si tu n'as pas ça. Alors qu'eux, non... C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de ces choses-là, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sont beaucoup plus libres. Et je sais pas si la liberté est réellement impliquée dans la recherche de toutes ces machines. Il y a un décalage entre la machine et l'être humain. Je veux dire, on peut pas spiritualiser une machine. La rendre plus mystique, c'est-à-dire que les gens confondent, parce que maintenant il y a une mode. Et je mets que c'est une mode de reprendre les religions comme une chose importante. Et c'est très facile pour de créer un environnement pseudo-mystique avec des machines. C'est très très facile. Mais si quelqu'un a besoin d'une machine pour se sentir mieux, je suis d'accord. Mais ce sera toujours pour moi une reproduction. Et une reproduction, c'est en fin de compte... c'est en fin de compte la valeur d'une photocopie, quoi. Je veux dire, moi, si pour moi il y a l'original, il y a une photocopie. Mais moi, je tiens à avoir l'original. Si je veux m'approcher de la vérité, au sens large des termes, les gens mettront les définitions qu'ils veulent dessus. J'ai vraiment pas où j'ai vraiment besoin de réfléchir toutes ces machines.
L'ecstasy ou également ces machines en donnant quelque part un peu le spectacle de la pensée. Le spectacle de l'extase de la pensée, mm-hmm. par les sons, par des images, par des... Est-ce que tu penses que c'est un déclencheur
sur tous les côtés sensoriels du cerveau, oui. Je pense pas que l'ecstasy changera quelque chose maintenant, mais les drogues design à venir sous peu, sûrement. Et par exemple, les drogues que sont en train de mettre, enfin les drogues, ce ne sont pas des drogues, parce que si jamais tu vas à la NASA, tu leur dis qu'ils mettent au point des drogues, ils vont être outrés. Alors qu'ils mettent au point des drogues. Je veux dire, faut pas se leurrer. La NASA n'arrête pas d'essayer d'inventer des produits qui seraient des palliatifs de sensations que l'homme ne peut ressentir normalement, que l'homme ressent normalement comme ça. Je dirais donc la réalité virtuelle, c'est pareil. Hein, sauf que c'est au niveau du visuel.
D'accord. Oui, on peut d'ores et déjà activer des sens, ne serait-ce que par vous parlez d'infrabasse, de sons.
Tout à fait. Enfin, moi j'appelle ça des sens lumineux quelque part, voilà. Parce que ce sont des sons finalement qui ont l'air anodins et qui touchent une part du cerveau, qui amène à la réflexion ou à l'émotion ou à ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas autrement. Ça c'est. Il est vrai, mais bon justement, c'est par le son. Mais je parle aussi de produits, je peux parler aussi d'ordinateur pour la vue. Je sais que la réalité virtuelle est très très avancée, qu'on a réussi à recréer par le biais de gants et de tapis sensitifs au sol, qu'on peut recréer des mouvements, avoir l'impression avec des gants que du chaud, du froid, de la vitesse. Pareil avec des casques, un plastique, enfin une fibre spéciale mélangée avec une forme de plastique. Qui t'enveloppe la boîte crânienne, on va te faire ressentir des sensations de vitesse, comme si tes cheveux se dressaient. Donc il n'y a pas que la drogue en prise, je dirais, comme ça, à manger ou à shooter, enfin ce qu'on appellera ça comme on voudra, quoi. Mais l'ordinateur peut amener ça aussi.
Perdre le sens de la réalité parce qu'on est trop bien dans les images et finalement on est trop bien dans les représentations, on finit par prendre tellement goût à l'image ou à la représentation que on oublie, c'est une forme de drogue et on oublie complètement le sens du réel, c'est qu'on perd le sens du réel, on est dans le principe de plaisir et non plus dans le principe de réalité. Et ça, c'est le premier danger, celui que les jeux virtuels, que les Game Boy, que ce type de cérémonie peut, d'une certaine façon, généraliser. Et il y a un danger encore plus grave que celui-ci, c'est le retour au réel. C'est qu'à force de vivre dans ces mondes virtuels, dans ces univers de synthèse, dans ces représentations formelles, on finit... lorsqu'on revient dans le réel, parce qu'on finit toujours par y revenir, le principe de réalité est là pour nous le rappeler, par réintroduire dans le réel les formes, les idées, les manières, les systèmes de pensée, les comportements du virtuel. Et c'est là que le danger est beaucoup plus grave, parce que il y a une complète confusion des niveaux. Lorsque l'on faisait la guerre dans les temps anciens, la guerre était immédiatement conforme à son image. C'est-à-dire que lorsqu'on égorgeait un ennemi, eh bien, on avait à la fois le réel et l'image du réel. Il n'y avait pas de distorsion entre les deux niveaux. Aujourd'hui, on fait la guerre comme un jeu vidéo. Les généraux sont dans leur salle de commandement, ils ont des écrans géants, les pilotes tirent à 30 km sur leur cible, inutile de dire qu'ils n'en voient rien, ils ne voient que des échos sur un écran radar, et donc ils jouent dans le réel comme s'ils étaient dans un jeu vidéo géant. Donc on finit par avoir du monde, une vision conforme à celle que l'on a dans les simulateurs de vol, mais également que l'on a pour les enfants par exemple dans les jeux vidéo. Et donc on réintroduit dans le réel ce qui était de l'ordre de la représentation. Et ça, c'est le véritable danger. Beaucoup plus encore que d'être simplement pris par le virtuel, qui au fond, ce ne serait pas si grave. Disons que ça, une partie serait du temps perdu, ou c'est, simplement on s'exclurait ainsi du réel, et on serait en quelque sorte perdu pour la société effective. On se mettrait en quelque sorte en marge du réel. Ce serait déjà très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de revenir dans le réel avec les catégories de pensée, les systèmes de comportement qui peuvent se justifier dans le virtuel, mais qui ne se justifient plus du tout dans le réel. Ça, c'est le véritable danger, je crois.
Pour essayer de voir, tu vois, les religions de la nature, et j'en parle avec des amis autour de moi, et on est de plus en plus, tu vois, à sentir qu'effectivement il va se produire des choses dans les années à venir, ne serait-ce qu'au niveau cosmique, planétaire, etc., etc. Il y a des trucs un peu dark qui arrivent, tu vois, et nous, je veux dire, il faut qu'on fasse face à tout ça, et pour passer au-dessus de ça, il faut qu'on soit tous très forts, parce que bon, la bombe atomique, ça va, on a donné une fois, quoi, et on en a plus besoin, et il faut arrêter de faire des immeubles et des tours de 40-50 étages, et puis de coller les gens tous là-dedans comme des cages à lapins, pour descendre au ras du sol.
On est au début 90, là. Il y a une volonté, une envie de retrouver des objets de force, des objets de pouvoir, des amulettes, chacun avec ses symboles, chacun avec des signes qui lui sont propres et qui sont révélateurs d'un nouvel esprit, quoi, la conscience de force, la conscience d'énergie, la conscience de l'ordinateur aussi, la conscience d'une intelligence qui est un peu démesurée pour nous quelquefois. Je crois que c'est ce qui nous fascine dans l'ordinateur, quoi. C'est cette capacité de continuer à calculer des chiffres comme pi, comme 3, 14, 116, et de continuer comme ça, et de savoir qu'un ordinateur continue à l'heure actuelle de plancher sur des séquences de nombres infinis qui continuent comme ça à tourner. Et de développer une mémoire que l'homme ne pourra jamais avoir. Ouais, l'ordinateur, c'est un peu déjà la mémoire de notre planète. C'est quelque chose qui arrive à consigner comme ça les éléments et la trame de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est une chose qu'on n'avait jamais pu encore concevoir à l'échelle humaine. Arriver comme ça à condenser, récolter l'information d'une planète pour arriver à sentir et concevoir que cette planète, elle était vivante d'un bout à l'autre. Et qu'on était ni plus ni moins qu'une parcelle innervée qui permettait à des consciences comme ça de se développer et de se connecter les unes aux autres à travers la planète. Et c'est vrai que l'ordinateur nous donne une image plus simple, plus simpliste, qui nous est révélée, et nous donne en même temps cette conscience maintenant biologique. Et c'est intéressant de voir par exemple les nervures d'un processeur, hein, qui ressemble étonnamment aux nervures d'une feuille ou aux nervures du bois. Et on peut tout à fait y trouver la même indication. Les nervures du bois qui vont permettre de faire s'écouler le fluide vital d'un arbre, la sève, au même titre que à l'intérieur de ces fluides, de ces cartes, de ces nerfs, de ces processeurs, passe un fluide cathodique ou un fluide d'énergie, un fluide électronique. C'est la même expression, en fait.
Pierre Lévy.
Ça me fait vraiment très plaisir d'entendre tout ce que j'ai entendu là, parce que souvent je fréquente des philosophes professionnels ou des gens qui sont censés travailler dans le domaine des nouvelles technologies, et malheureusement ils en restent à des conceptions faussement humanistes, hein, une opposition stupide de l'homme et de la machine, sans comprendre que l'homme se construit par l'ensemble du cosmos dans lequel il vit et qui pense en lui, et qu'aujourd'hui dans ce monde, dans ce cosmos qui est en évolution, en train de naître en permanence, eh bien les machines justement jouent un rôle de plus en plus important, et notamment les ordinateurs et tout ce qu'on peut faire avec. Ce que je voudrais dire au sujet toujours de ce face-à-face de l'homme et de la machine, c'est que je crois qu'aujourd'hui, le nouveau schéma régulateur, le nouvel idéal de l'informatique, ce n'est pas du tout de construire une machine intelligente, de faire de l'intelligence artificielle, mais bien au contraire, de construire des collectifs humains plus intelligents, avec des sensibilités plus affinées, qui vivent sur des rythmes plus intenses, etc. quoi. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire une machine pensante, mais c'est de faire un hypercortex avec l'ensemble des gens qui participent à ces réseaux informatisés, ou de créer des univers virtuels qui sont peuplés par ces gens, dans lesquels on peut construire, dans lesquels des singularités peuvent surgir, dans lesquels de l'invention peut se faire. Et je crois que l'ouverture de ce nouvel espace, on en a bien besoin aujourd'hui, parce que dans les autres espaces, celui des institutions classiques ou celui de l'économie marchande, la réalité est un peu triste.
La rêve n'est pas que de la musique et un DJ. La rêve, c'est une découverte de soi-même, c'est une découverte d'événements, c'est une découverte d'éléments, de sens. Ouais. C'est vraiment ça pour moi une rêve. Quelqu'un est dans une rêve, s'il va uniquement pour danser, et encore, même s'il danse, il va découvrir son corps. Il va se découvrir des aspects. C'est ça qui est bien justement les rêves. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, et justement, c'est ce que j'aimerais, que les gens aillent beaucoup plus loin lorsqu'ils vont dans des rêves. Qu'ils ne soient pas uniquement à se sentir eux-mêmes, et donc en forme d'égocentricité, parce qu'on retrouve de plus en plus ça, je dirais, en France, où les gens dansent en ne regardant pas les autres autour. Alors quand on va en Angleterre, les gens dansent et se sourient tous les uns les autres. Et c'est une forme de communication, c'est une forme d'échange. On échange une forme de sympathie, le fait de sourire à quelqu'un d'autre, c'est échanger une forme de respect. C'est de respect, d'admiration. C'est une... comment dirais-je ? Oui, c'est un acte d'admiration, de respect. Et ce que je cherche n'est pas seulement à créer quelque chose de plus par rapport à toutes les soirées qui ont été faites. J'aimerais faire remarquer à des gens qui d'habitude voient ce genre d'image sur un petit écran ou autre, qu'ils peuvent faire partie de l'image et donc leur donner la possibilité, la conscience d'une autre dimension.
Maintenant, on parle de société de communication de masse, et on a perdu le sens originaire de la notion de communion. Communion, c'est devenir un. C'est-à-dire, effectivement, se rejoindre, s'unir, devenir un. Que ce soit avec Dieu, dans le cas de la communion religieuse, ou avec l'autre, devenir un. Communier vraiment, c'est devenir un. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de schizophrénie qui est assez fantastique. C'est qu'on parle de communication, mais cette communication, c'est en même temps un solipsisme. Il s'agit de plusieurs individualités qui tenteraient, par le secours de la médiation, de faire semblant de communiquer, c'est-à-dire de faire semblant de communier. Mais on garderait son part devers soi tout en jouant au jeu de la communion. Donc la communication, c'est au fond... dans la manière dont elle est jouée, une sorte d'illusion volontaire, parce que en même temps prudente. Il s'agit surtout de ne pas perdre ce substrat égotiste qui forme la personnalité et faire semblant de communiquer pour ne pas communier, puisqu'il n'y a plus rien à communier autour de. Il n'y a plus rien à communier et on ne communie autour de rien. Il y a donc nécessité de trouver un substrat autre qui sera l'image, qui sera le son, qui sera la représentation. Et donc on se plonge dans la représentation et on oublie sa propre présence à soi. On oublie d'être présent à soi-même pour se plonger dans la représentation qui devient désormais le lieu de la communication. Au lieu de communier dans la présence, on communique dans la représentation.
Pour le Pixim à la Villette, il y avait eu les premières images qui avaient été ramenées des laboratoires japonais. Et c'était de l'image virtuelle en trois dimensions Enfin, pas virtuel, le mot n'est pas bon. Image de synthèse en trois dimensions de l'univers en formation. C'était un peu la transposition justement métaphorique de notre univers en expression moléculaire, mais appliquée à l'image de synthèse. Et on était comme ça cloués dans nos sièges à la Géode. Et on avait la sensation extraordinaire d'un seul coup de se voir traverser à travers une image panoramique d'un flux comme ça de molécules, de particules qui venaient à notre rencontre. Bon, ça effectivement c'est des expressions qui sont extraordinaires.
À mon sens, on peut rester à l'idée classique de monde virtuel telle qu'elle a été élaborée par Jaron Lanier et d'autres, où là, le monde virtuel, c'est tout simplement le double ou la simulation d'un autre espace physique. Alors, là, on va rencontrer, en quelque sorte, l'image virtuelle de quelqu'un d'autre dans une réalité virtuelle, mais son image virtuelle, c'est comme son corps. Hein, et cette réalité, c'est comme un espace, une pièce en trois dimensions, etc. Bon. Mais ce qu'on peut imaginer, en allant cette fois-ci beaucoup plus loin, c'est que ces réalités virtuelles ne sont pas le double d'un espace physique, mais que ce sont des espaces de signification. Et pour entrer dans ces espaces de signification, à ce moment-là, en plus, ça coûterait beaucoup moins cher. Il ne serait pas nécessaire de mettre des gants de données, des casques de visualisation, des combinaisons, etc. Alors tout à l'heure, il y a un de ceux que vous avez interviewé qui disait que ça serait bien de pouvoir enregistrer l'état des neurones de quelqu'un qui a vu Dieu. Moi, je dis non, aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est voir Dieu. Je ne veux pas voir les neurones de quelqu'un qui l'a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intérêt n'est pas dans l'image de ce qui est physique, mais l'intérêt est dans ce qui est perçu, fondamentalement, dans la signification qui est créée. Mais vous voyez qu'on a déjà sauté, on n'est plus dans la simulation de l'espace physique, on est dans l'ouverture d'un nouvel espace, qui est le vrai espace virtuel, et qui est la vraie création des intellectuels collectifs. Donc c'est vraiment de la mise en communication, de la mise en contact.
On voit un DJ, bon, Armand, quand il est de plus en plus maintenant sur scène, quand il mixe, il regarde les gens et il leur fait des signes de regard, de gestes, et ça, les gens aiment, quoi. C'est-à-dire que quand il leur dit monter, mais ils montent, quoi, et c'est parti, quoi. Et après, c'est une énergie commune et ça, c'est là que ça éclate, quoi. Et ce soir, j'espère qu'on va voir ça ce soir.
Oui, c'est important qu'il y ait des gens, qu'il y ait une personne, mais est-ce que pour une fois, on n'est pas dans un système où la scène n'est pas obligatoire avec le chanteur, le beau chanteur qui se met tout nu? Est-ce que justement, ces machines-là et ces situations-là ne nous poussent pas à aller vers autre chose que de se regarder, en fait? Que dans une idée de contemplation de soi-même ou du beau chanteur qui veut se montrer lui?
À ce moment-là, il existe déjà des programmes de musique. On peut arriver à réaliser un programme de musique qui évolue toute seule avec des... Bon, à ce moment-là, ça, c'est un ordinateur le fait tout seul, quoi. On intègre des sons et avec une variable qui change à l'infini, on peut faire des milliers et des milliers de soirées et le son s'arrête jamais, quoi, à ce moment-là. Ça, c'est à l'extrême.
Moi, sur ce que tu dis, je suis...
Sur quoi ?
La contemplation de soi, non, j'aime bien un peu ta théorie là-dessus, parce que c'est vrai que je le vois un petit peu de plus en plus avec les groupes avec lesquels on travaille. Ils veulent pas se mettre en avant. Ils veulent que leur musique soit mise en avant. Tu vois, quand je leur parle, faites-moi une petite bio, faites-moi un petit dossier de presse, ils me disent à quoi ça sert. Ça sert à rien que les gens écoutent la musique, que le message, si tu veux, soit véhiculé par la musique, que les émotions, que les images se créent dans la tête des gens. Pourquoi effectivement forcément essayer de mettre des mots sur notre musique alors qu'il n'y a pas de mots pour exprimer la musique?
Ces nouveaux supports numériques ne représentent pas un nouveau langage, mais sont la possibilité, ça représente une possibilité de développement pour énormément de nouveaux langages, et je dirais même de nouveaux types de sémiotique, de nouvelles manières de signifier. Imaginez, par exemple, des objets sonores autonomes qui émettrait des sons, enfin, indépendamment d'une programmation. Hein, et aussi de l'interaction entre de l'image et du son, etc. Bon, toutes ces possibilités techniques existent. Maintenant, le problème, c'est de leur donner vraiment un sens culturel. C'est que des vrais créateurs s'en emparent. C'est de ne pas laisser ça uniquement à des informaticiens qui, très souvent, sont de simples spécialistes des machines, des langages logiques, et qui, souvent, n'ont pas compris qu'il y avait là un véritable support culturel créatif. Voilà.
Il y a un véritable arbre de connaissances à créer.
Mais oui, tout à fait. Ouais, qui doit pousser, oui. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Children, are you ready? Yeah! Oh Lord!
Un laser pour percer un mur ou pour un laser pour détruire un caillot que les gens ont dans les reins, tu vois ce que je veux dire, c'est le même principe. Il faut prendre quelque chose comme une sonde qui va très très loin, ou comme quand on voit un éclair à travers le ciel, tu vois, genre les mecs essayent de parler avec les extraterrestres, il faut que ta sonde elle aille le plus loin possible pour pouvoir éclater à l'intérieur et que le cerveau sous-résiste. Ouais, ok, c'est bon, ça y est, j'ai vu la lumière, quoi, mais bon, j'ai compris, hein. Et en fait, on fait partie d'un tout, et on n'est plus là, juste à l'intérieur de nous-mêmes, à se dire, ma petite personne, mon petit look, ma coupe de cheveux, j'en suis où, mon rimmel, mon maquillage, mes ongles, c'est plus ça, quoi.
La plupart des spiritualités sont toujours des mises en relation de l'homme avec une transcendance, c'est-à-dire de l'homme avec quelque chose qui le dépasse, qui est généralement absent dans la vie quotidienne, vers lequel il tend, qui est une réalité absolue, indépendante de lui, etc. Bon, ça c'est la spiritualité, disons, classique, religieuse. Or là, il s'agit effectivement d'une nouvelle spiritualité, enfin de quelque chose qui rejoint le phénomène spirituel, mais non plus à travers une transcendance, mais à travers quelque chose qui est purement immanent.
Vous ne voyez pas de danger ? Pas de danger de totalitarisme, puisque c'est chaque individu, voilà.
Et, qui se fabrique
dans son interactivité
son
avec les autres.
Par l'interaction avec les autres, et en construisant son identité, il contribue à construire l'identité collective. Donc vous voyez, il n'y a pas l'idée d'une identité collective qui s'impose aux individus. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas du tout un système de transcendance.
Ou d'une individualité qui pourrait se prendre pour Dieu et qui donnerait...
Bon, ben là, vous renvoyez à Dieu. Mais écoutez, je ne crois pas qu'un individu, justement, dans cette perspective-là, dans cet espace nouveau, cet espace virtuel qui est en train de se créer et d'émerger, justement, l'individu ne peut pas être Dieu. Dieu, c'est le collectif. Mais c'est un collectif pluriel, un collectif ouvert, un collectif immanent, etc. Parce que c'est le collectif... C'est pour ça que je parle d'intellectuel collectif. Parce que c'est lui qui sait. Personne peut tout seul savoir. C'est justement dans la participation à cet espace commun que l'on participe à la création d'un être, si vous voulez, nouveau, mais un être qui ne fait qu'exprimer les individus et qui ne s'impose pas.
Oui, enfin, il y a les grandes manifestations de masse du fascisme peuvent être assimilées à la forme des dangers que vous évoquez, à savoir des esprits non préparés, des esprits en tout cas prêts à se laisser aller à l'emprise de la représentation, abandonnent toute subjectivité, toute présence à eux-mêmes. Ils deviennent absents à eux-mêmes et se projettent dans la représentation des autres. Et de fait, ils perdent le contrôle. Mais ils cherchent justement cette perte de contrôle. C'est pour eux un titre de gloire que de gagner cette perte de contrôle. Mais ils la payent d'un prix très élevé, sous prétexte de se laisser aller, de lâcher prise, ce qui fait partie des idées du New Age, lâcher prise. Ils perdent toute capacité de se mettre à distance de leur propre expérience. Or, l'apparition de la conscience, je veux dire la différence entre un homme et une sangsue, par exemple, ou un oursin, c'est que nous sommes capables de sortir de nous-mêmes, par notre raison, par notre capacité à nous distancier. C'est cette distance qui fait que nous sommes sortis, je dirais, de la tourbe originaire. Et en abandonnant, en lâchant prise, en tout cas en lâchant prise ce qu'il ne faut surtout pas lâcher, à savoir cette présence de nous-mêmes, cette présence, parce que justement on se laisse aller dans la non-présence, dans la représentation, on perd tout moyen d'évaluer cette représentation. Et c'est là qu'est le piège. Je crois que le piège fondamental, et il se referme, c'est qu'une fois qu'on est pris dans la confusion, la fusion collective où on prétend s'échanger au niveau des simples représentations, on éprouve certes un sentiment fugitif d'unanimisme, mais qui ne contient pas en lui-même les germes de sa régénération, qui ne contient pas en lui-même les grilles, les moyens, les outils pour se dépasser soi-même. Et donc, c'est la mort, c'est une forme de mort.
Aujourd'hui, l'homme blanc, l'occidental, il a choisi, lui, de redécouvrir sa conscience à travers la technologie, alors que d'autres, au même moment, n'en avaient pas besoin et continuaient à avoir ce rapport simple avec la nature, la conscience et les choses en général, juste par la danse, juste par la transe, juste par certaines drogues ou tout simplement par la méditation ou des systèmes variés. Il en existe beaucoup pour cela de conscience, de développement de conscience.
Oui, mais c'est assez étonnant en fait. Il faut arriver à trouver des circuits intégrés qui ressemblent à un arbre. Et on se dit, tiens, il y a des arbres.
Ben, j'espère qu'on ne se dira jamais, tiens, c'était comment un arbre. Et qu'on trouve plus de plaisir à voir un arbre qui serait articulé en fibres de carbone et même vivant, parce qu'on pourrait on pourrait tout à fait faire des clones d'arbres, des faux arbres qui restitueraient de la chlorophylle mais qui seraient purement synthétiques. Ouais, ça serait possible, mais je crois que rien ne vaut l'aura vitale d'un arbre. Et ça, c'est quelque chose qu'on est incapable de restituer.
Précisément, la métaphore de l'arbre n'est plus valable, puisque l'arbre, c'est essentiellement renouvellement. L'arbre, c'est ce qui, par tous ses pores, par toutes ses graines, par tous ses téguments, est révitalisation, régénération, capacité à se renouveler complètement. Le chêne, c'est d'abord un être capable de produire des milliers et des milliers de glands, d'autres chênes. Donc, eh bien, dans la représentation, il y a des impasses partout, parce qu'il n'y a plus ce qui fait le fondement de du renouvellement, le fondement de la revitalisation, qui est la présence à soi-même, qui est cette pure présence à son propre nœud vital. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Garder à tout prix la capacité de rester présent à soi-même.
Ce que je crois, c'est que ce nouvel espace du savoir, ce nouvel espace lisse, continu, spirituel, qui ouvre à une nouvelle liberté, y rejoint un autre espace tout à fait fondamental, tout à fait premier, primordial, élémentaire, qui est celui de la Terre. Mais non pas la Terre au sens du retour à la Terre, pas la Terre des paysans, la Terre du Paléolithique, la Terre des chasseurs nomades, la Terre des aborigènes d'Australie, la Terre de celui qui dessinait sur les grottes de Lascaux. Bon. Et c'est cette grande terre mythologique, si vous voulez, cette terre qui est indissociable des significations créées par l'humanité et qui a été effacée ensuite, enfin disons qui a été recouverte par le territoire, les territoires étatiques, qui a été recouverte par un espace des marchandises, qu'on retrouve justement par cet espace du savoir qui est en train de se créer. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment de faire un court-circuit entre la Terre fondamentale. Il y a la personne que vous interviewez tout à l'heure parlait d'amulettes, de totems, de fétiches, etc. Eh ben oui, on se retrouve des totems, mais dans un espace informatisé.
Vous avez dû avoir des critiques assez sévères, justement, quant au côté d'ouverture de votre projet et, disons, déstructurant d'une architecture des sociétés et des pouvoirs.
Oui, mais les gens ont énormément de mal à admettre qu'il puisse exister un mode d'organisation collectif qui soit justement auto-organisé, qui soit immanent, où il n'y ait pas une personne qui, à un moment donné, décide, où il n'y ait pas de point d'origine, où il n'y ait pas de point de départ, où il n'y ait pas de point de fondement, etc. Si on leur dit, mais non, dans le cerveau, il n'y a pas un cerveau qui dit au cerveau comment il faut fonctionner. Hein, c'est les neurones qui s'auto-organisent. Et il n'y a rien de plus intelligent qu'un cerveau. Bon, et ben, pourquoi ne pas faire pareil avec des collectivités humaines ? Ben non, il leur faut des chefs, il leur faut des règlements, etc. Bon, mais moi, ce que je crois, c'est que le maximum d'intelligence commune sera atteint quand, justement, on fonctionnera en auto-organisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit fonctionner en auto-organisation surtout, partout, tout le temps, etc. Sans doute, est-ce utopique ? Mais qu'il y a des espaces dans lesquels on peut fonctionner comme ça, en laissant subsister les institutions qui ont aussi leur nécessité.
On reproche une chose quand même à l'environnement de la rêve, c'est tout ces... Il y a malgré tout trop de défonce, ça je le reproche vraiment. Il y a trop de défonce dans un environnement qui n'est pas naturel. Résultat, il n'y a pas cette capacité d'échange qui est nécessaire. Si on pouvait faire des rêves le plus souvent encore dans des forêts, dans la nature en général, je crois que ça aurait une toute autre portée. Mais d'enfermer les gens dans un blocos, c'est pour les faire vibrer trop fort au niveau du son, je ne crois pas que ce soit très très bien à long terme. Je crois que c'est au contraire une façon de passer à quelque chose, à côté des choses essentielles. Ce que recherchent les rêveurs, je crois, c'est la transe. Et la transe, il y a une multiple façon d'y parvenir. Et la transe, à tout prix, d'une façon mécanique, je crois qu'elle conduit les hommes à une... J'arrive pas à t'exprimer ça. Je connais assez bien l'Afrique, pas assez bien. Je me suis baladé là-bas et j'ai eu des expériences fortes d'initiation, de choses comme ça. Et là, j'ai découvert ce que pouvait être la transe avec des gens qui n'étaient qu'instinct. Et elle est de toute autre nature et elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus généreuse, je trouve. La transe, notre transe, elle reste encore trop individuelle, trop narcissique, trop abstraite. Elle manque d'un support. C'est ça que je trouve intéressant de plus en plus d'amener des images et des sensations fortes ou des sensations esthétiques aux rêveurs, peut-être pour leur donner envie de voir autre chose.
Quand je médite, pour moi, je suis tout le monde. C'est-à-dire, je suis le micro, je suis Allah, je suis Bouddha, je suis la machine virtuelle, je suis les choses qui n'existent pas, je suis le vide, je suis ce que les gens n'arrivent même pas à imaginer, ce que les gens essayent. Je suis même au-delà de ce que les gens peuvent ne pas arriver à imaginer dans le virtuel. C'est-à-dire que je veux dire, je suis en accord, je suis en harmonie avec le cosmos, je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure et même ce qui n'existe pas, et même ce qui est inimaginable. Donc, mais j'ai aucune parano puisque je suis au milieu, donc je peux pas avoir de.
Au milieu de.
Je suis au milieu de. Je suis dans le vide en fin de compte. Je suis le vide.
Mais est-ce que tu penses qu'avec ces machines, on ne peut pas se détacher de son corps et se projeter, non pas dans le miroir, mais dans l'image ?
Bien sûr, c'est là où... Si, on peut, avec ces machines, on peut justement se détacher de son corps. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un attachement. Justement, dans la réflexion du vide, il n'y a pas d'attachement. Il n'y a ni au sens psychologique, enfin sentimental, etc., ni au sens matériel. Je veux dire par là que lorsque je médite, que j'arrive à un tel stade, ce qui est très difficile pour moi, ce qui a été très rare jusqu'à maintenant, pour moi, ça n'a pas plus d'importance la mort de ma mère que le fait qu'une table soit en bois, quoi. Et ça peut paraître
ça peut paraître
une affreusité ou un truc incompréhensible pour beaucoup de gens, mais je sais même pas si c'est la réalité, mais c'est ce que je sais même pas ce que je pense, c'est ce qui est, c'est même pas ce qui est, parce que c'est encore trop bas le terme, le terme est encore trop machine. Être, c'est encore trop machine.
On va proposer quand même à la masse de la population la possibilité de flirter avec le vide.
Le mot vide me paraît pas tellement adapté à la situation, parce que ce vide n'est pas un pur néant. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, de l'ordre du langage. Si vous voulez, c'est comme une équation mathématique. Une équation mathématique, ça n'a pas de chair, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'émotion, mais d'une certaine façon, ça est. On ne sait pas comment ça est, ça n'a pas de visage, ça n'a pas même de matière, hein, du tout. Mais ça est, entre guillemets. Les philosophes disent qu'une équation mathématique, c'est un être de raison. Un être intermédiaire, si vous voulez. Quelque chose qui est entre l'être et le non-être, mais qui n'est pas dans le néant, qui n'est pas dans le vide. Et donc, ces espaces, pour moi, ces espaces virtuels, ces lieux, sont des lieux intermédiaires, sont des images intermédiaires, ce sont des êtres de raison. Et c'est important d'introduire cette nuance, parce que si vous dites simplement c'est du vide, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ils sont si fascinants. Ils sont fascinants, on peut être fasciné par ces lieux, et je comprends pourquoi, parce qu'ils ont une existence propre. S'ils n'étaient rien, ce ne serait pas si grave, parce qu'on finirait par s'enlacer, et vite. Mais ils sont quelque chose quoi pas grand-chose, mais quelque chose néanmoins, et qui a une certaine force, qui a une certaine efficacité, et c'est pour ça qu'ils sont particulièrement dangereux, parce que justement ils ne sont pas du vide, ou que du vide. Il y a le danger, effectivement, de l'enfermement dans ces mondes imaginaires qui sont plus confortables, plus agréables, plus faciles que le réel, qui est de plus en plus compétitif, de plus en plus dur. Donc, on les exclut du réel. Je pense aux chômeurs, je pense aux jeunes qui n'ont pas accès au pouvoir, qui sont déjà, en quelque sorte, dont ils sont déjà exclus. Ce sont des magnifiques exutoires. Hein. C'est le fameux du pain et des jeux. Quand on saura donner du pain et des jeux à des millions de chômeurs, on pourra, en quelque sorte, estimer avoir rempli son rôle politique d'assurer la paix sociale. Mais le retour de bâton sera terrible. C'est qu'à force de projeter des pans entiers de population dans ces espaces intermédiaires, de ces espaces purement pythagoriciens, sans ancrage dans le réel, on court les plus grands risques. En effet, on ne peut pas, ce n'est pas possible, puisque nous sommes des êtres réels, vivre dans le purement symbolique. Un jour ou l'autre, le principe de réalité nous rappellera à son bon souvenir. Et donc, il est urgent non seulement d'apprendre à lire les espaces virtuels, mais d'apprendre à en sortir. De même qu'il faut savoir éteindre un téléviseur et non pas le regarder 25 ou 30 heures par semaine, comme on le fait aujourd'hui dans des pays comme les États-Unis ou en Europe occidentale, ce qui est incroyable, ce qui prouve à quel point on est désormais projeté dans un univers purement cathodique, qui n'a plus aucune réalité. Ce n'est plus que de l'intermédiaire. Je ne dis pas que c'est du vide, mais ce n'est que de l'intermédiaire. Donc il faut apprendre à fermer le poste. Et de même, il faudra apprendre maintenant à sortir du virtuel, à enlever le casque. Et ça, ce n'est pas facile, parce que c'est un acte réel, pour le coup. Le seul acte réel dans le virtuel, c'est de pouvoir fermer le bouton.
Après les transmusicales de Rennes,
On a décidé de faire un festival pour entre 10 et 15 000 personnes. C'est que la date donc, de ce festival aurait lieu lors d'un week-end de pleine lune. Donc, au mois de juillet, c'est choisi exprès, quoi. De plus, ça sera vers entre la Mayenne et la Bretagne. On veut recréer un petit peu ça avec des minis, des monnaies, ainsi de suite. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a, des bonnes vibes, comme j'appelle ça autrement dit en français, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, des bonnes vibrations.
C'était le phénomène rêve ou la rencontre de l'esprit et du silicium, avec Philippe Quéot, chercheur à l'INA, Pierre Lévy, philosophe, Pascal Onofri, adepte de la pensée zen, Kinou et Manu Casana de Revege, et les rêveurs des Transmusicales de Rennes. Yann Parentoen, Jean-Charles Dieval, Bernard Treton, Thierry Siligini. Nuit magnétique, bonsoir.
C'était Rave ou la rencontre de l'esprit et du silicium, un numéro des Nuits Magnétiques diffusé pour la première fois le 3 février 1993 sur France Culture.